Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Radio Foot International. Il est 21h10 dans Universel. Et au programme, bien sûr, la Ligue des Champions, là, en long, en large, et pour certains, de travers. On verra cela plus tard. D'abord, les quarts de finale. Allez, les deux premiers, deux très belles affiches au programme dès ce soir et du spectacle quand même. Tottenham-Manchester City, Liverpool-Porto. Et pour en parler, la paire que le monde nous envie, ceux qui ne sortent que la nuit. La nuit venue, ce ne sont pas des vampires. Ils s'appellent Nabil Djellit et Patrick Juillard.
Bonsoir Messieurs, Olivier,
bonsoir Olivier, à tous. Bonsoir à toutes et à tous.
Des fidèles de cette heure tardive.
Exactement.
Mais d'habitude, c'est la dame qui vous convoque. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation à moi.
Bah écoutez, on est très heureux.
On n'est pas sectaire.
Voilà, et puis on sait aussi que la paire, il n'y en a pas deux, quoi.
Bah, allez, hop, boum. Et puis de passage, parce qu'il est gentil et soigné, poli et correct avec ça, Martin Guèze est là aussi. Monsieur Guèze, bonjour.
Eh ben bonjour Olivier, bonjour à tout le monde.
Et sur le pré, donc, il y a quelques minutes encore, la crème de la crème du foot anglais, tout simplement, le tiercé de tête de la première ligue actuellement. Et au milieu, l'un des clubs les plus titrés du foot portugais. Et à la mi-temps de ces deux premiers quarts, encore du suspense, même si les hommes de Jurgen Klopp, on va le voir, ont pris une belle option en s'imposant 2-0. Ce sera plus ouvert, mais pas simple, à Manchester City qui recevra Tottenham avec un but de retard. Une Ligue des Champions déjà plus belle compétition de clubs au monde. Alors pourquoi, diable, la réformer? C'est prévu pour 2024. Plus de matchs, plus de pépettes, peu de renouvellement, des heureux élus d'une saison sur l'autre. Une réforme souhaitée et promue par les grands clubs du continent, les plus riches, donc on l'a compris, au profond mécontentement apparemment des autres. La Ligue 1 en France est contre, à part le PSG bien sûr. La Première Ligue anglaise est vent debout contre également. Et le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, est fou de colère. Enfin, pour terminer, un peu de féminité dans ce monde de brutes et de gros sous, l'équipe de France féminine, Corinne Diacre et ses filles viennent d'achever par un succès leur dernière séquence pré-Coupe du Monde, compétition qu'elles accueilleront à partir du 7 juin. 12 matchs, 11 victoires, c'est carré, mais pas forcément suffisant pour faire d'elles les favorites du tournoi. Question posée à notre spécialiste maison, l'homme qui les suit depuis quelques mois déjà, Éric Chorin, de retour de Strasbourg. Thibaut est aux manettes, Pierre-Olivier Guérin aux réseaux sociaux comme d'habitude, on peut y aller. La Ligue des Champions et son grand 8 affolant, affriolant, alléchant des quarts allés ce soir qui ressemblait à s'y méprendre à une journée de Première Ligue. Un sprint pour le titre même, on pourrait dire, puisque les trois premiers étaient au rendez-vous. Mais que diable Porto venait-il faire dans cette galère? On l'a longtemps cru d'ailleurs, hein, qu'il venait faire dans une galère Porto. On va y revenir finalement. Bon, c'est moins pire que ce qu'on pensait. On commence par Manchester City Tottenham, si vous le voulez bien. Le deuxième pour l'instant de Première Ligue, il a un match en moins, qui rend visite au troisième dans un stade flambant neuf. À 1 milliard d'euros et où, nous dit-on, on sert 10 000 bières à la minute. Quel beau pays. Un stade flambant neuf qui accueillait donc sa première rencontre de Ligue des Champions, Agüero notamment, face à Kane. À l'arrivée, on a eu un spectacle quoi, décevant si je vous dis ça.
On est resté
Nabil.
Oui, effectivement, c'est deux équipes qui sont connues pour plutôt pratiquer un beau football, un football de possession du côté de la première ligue, même si parfois Tottenham choisit la transition offensive selon l'adversaire. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup d'imprécisions dans ce match, beaucoup de frébilité également au niveau de la défense de Manchester City, notamment en première mi-temps, et ça a été finalement sanctionné. En deuxième, deux faits importants. Ce penalty, vous avez raison, raté par
13e minute. Ouais. Raté ou arrêté par Hugo Lloris. On peut
alors
le voir
arrêté par Hugo Lloris, mais mal tiré par Agüero, parce que si vous choisissez le bon côté à tous les coups pour un gardien à ce niveau-là, vous l'arrêtez. Hugo Lloris a franchement bien jailli et a préservé même son équipe, et on peut clairement lui dire merci sur ce match. Je trouvais des hommes en deçà. Je trouve que Manchester City a été battu au milieu de terrain, notamment par Moussa Sissoko et Wings, qui ont eu un abattage et un impact assez intéressant. Je trouvais que Sterling était dans un exercice de soliste, et Agüero, qui est l'homme fort de cette équipe depuis le début de saison, a été pour moi un simple croqueur de ballon,
comme souvent sur les gros matchs.
On rappelle que c'est Son, le Sud-Coréen, qui, face à une défense de City calamiteuse à ce moment-là, vraiment sur ce but,
mais regardez,
a inscrit donc le but du match, celui qui donne un petit avantage quand même pour aller à City, à Tottenham. C'était à la 79e minute. C'est vrai que depuis Harry Kane était sorti sur blessure. On espère que ce sera pas trop long pour revenir au match. La victoire est logique pour les Spurs.
La victoire est logique parce que c'est les, des deux équipes, c'est celle qui a été le, la plus proche de son meilleur niveau. Comme l'a dit Nabil, City a été quand même largement en dessous pour beaucoup de joueurs. J'ai pas trouvé le côté dominateur implacable qu'on peut voir habituellement chez
rouleau
City.
Rouleau compresseur.
Voilà, rouleau compresseur qui confisque le ballon, qui essaye d'étouffer l'adversaire. Je l'ai pas beaucoup vu. Tottenham c'était mieux et puis bah les moments clés ont été mieux gérés. Le penalty, mais... normalement. Même si vous débutez pas très bien, un penalty à ce moment du match, si vous le marquez, ensuite ça vous donne un ascendant. Là,
ah
ça.
Ah oui, c'est un but à l'extérieur. Donc
oui, voilà. Donc là, ça n'a pas été le cas et ça s'est un peu, on me disait, dans une certaine mélasse. C'était quand même pas le meilleur des deux matchs.
Hein. Monsieur Guèze.
Oui, c'était juste pour abonder dans le sens de Nabil, puisque c'est vrai que c'était un vrai rouleau compresseur cette dernière semaine. On a préparé l'émission ensemble, on a regardé les petites statistiques. Il restait sur 14 succès de suite. Dernière défaite, c'était contre Newcastle fin janvier.
22 victoires sur les 23 derniers matchs depuis le 30 décembre.
Voilà, il y avait juste une défaite contre Newcastle. Mais... là, il restait sur 14 victoires de suite. Donc Tottenham, c'est quand même un gros coup qu'il réalise là, puisque battre Manchester City en ce moment, il y a très très peu d'équipes, comme on le dit, qui arrivent.
Le suspense est entier, vraiment, en vue du match aller, finalement, c'est 1-0.
Ah ben c'est
1-0, c'était un vrai avantage, vous n'avez pas pris de but chez vous, vous en avez un à défendre à l'extérieur. Voilà, il y a un vrai vrai bon coup à jouer face à une équipe qui est présente encore sur tous les tableaux, qui veut rien lâcher.
Non mais on sent que Tottenham, de toute façon, ils vont être dans leur rôle là, du côté de l'Emirates... L'Etihad ou l'Emirates?
L'Etihad,
ouais, je comprends. C'est Arsenal, j'ai bien fait de me corriger. Ils vont pouvoir mettre des joueurs qui vont vite comme Son ou Lucas et ils vont jouer forcément la contre-attaque. Manchester City peut toujours se consoler parce que à la même époque, la saison dernière, ils étaient revenus d'un 3-0 face à Liverpool et on sait comment ça s'est passé au retour. Là, il y a juste un handicap de 1-0 à remonter. Moi, je pense, après c'est mon sentiment, je pense quand même que Manchester City va réussir à le faire parce que je trouve quand même qu'il y a des limites à cette équipe de Tottenham et à domicile ça va être quand même difficile de juguler la pression et c'est peut-être avec le retour notamment de Kevin De Bruyne au milieu de terrain de Leroy Sané mais Leroy Sané.
Oui, chez nous on dit le roi parce qu'on connaît l'histoire.
Juste une petite remarque Olivier, vous allez être d'accord avec moi, de quel côté est venu le but de Manchester City? Du côté du point faible, Fabien Delph. Depuis le début de la saison, ils ont dépensé des centaines de millions, ils ont été incapables de trouver un latéral gauche fiable, et là je jette une pierre dans le jardin de Benjamin Mendy.
Juste une petite seconde, parce que Pierre-Olivier Guérin, faut pas croire, il est sur les réseaux sociaux à fond, alors ça tweet sur Facebook, on a des tas d'amis là-bas qui sont prêts à lui répondre, mais il est capable aussi d'écouter les après-matchs et de sortir qui? Eh ben Hugo Lloris qui nous parle du match retour. Écoutons le portier international français.
Oui, on sait, si on veut faire, on va dire, une belle opposition face à ce genre d'équipe comme Man City, il faut mettre de l'intensité dans notre performance, il faut mettre de l'agressivité, c'est ce qu'on a fait. Il y a eu des moments importants dans le match où on a su être très solide et montrer notre personnalité. Après, voilà, ça se joue sur des détails. Ce soir, on a réussi à les faire tourner en notre faveur. Je crois qu'à ce niveau, avant de penser tactique ou technique, c'est avant tout d'aller sur le terrain ensemble avec la même idée de jeu, d'être prêt à se battre sur chaque ballon comme si c'était le dernier, et c'est avec la même approche qu'on jouera le match retour. Il faut tout donner et ensuite on essaie d'appliquer les consignes à la lettre du coach. C'est également sa victoire, mais encore une fois on est qu'à la mi-temps d'une double confrontation et encore un grand match à délivrer là-bas, ça sera encore plus dur.
Il est bon ce Lloris au micro des petits copains de Salim Bomgali, c'est-à-dire RMC Sport.
Ouais, il a raison, je pense que effectivement, on a toujours l'idée que Manchester City est plus fort. Et si on regarde les résultats, si on regarde les matchs récents en Premier League et si on regarde l'effectif, effectivement, si le foot se jouait sur le papier, il passerait 9 fois sur 10.
Mais là, PSG gagnerait la Ligue des Champions.
Voilà, il serait au moins dans le dernier carré tous les ans. Mais
et Neymar jouerait la seconde partie de saison.
Aussi.
Exactement.
Mais là, dans la réalité, dans le monde réel, ce match, c'est comme un match de cup anglais. Et on a vu récemment les demi-finales. C'est très serré et dites petites équipes peuvent battre des grosses. Donc moi, je pense que ça fausse la donne, ces matchs de Ligue des Champions entre deux clubs d'un même championnat qui se connaissent très bien, qui ont des points de repère. On n'a pas le choix, oui.
Ou bien trouver des adversaires quand il y a trois, quatre clubs dans le même pays.
Du coup, ça donne, je pense, un surcroît de chance à Tottenham, cette affaire.
Tottenham qui n'a pas disputé une demi-finale européenne depuis 1984. Martin Guez n'était pas né. Ses parents n'envisageaient même pas
de penser à lui.
Hein, à 10 ans près, oui. Il nous le jette au visage.
Alors, qui était la star de Tottenham à cette époque-là? J'aimerais bien savoir.
En 1984.
Je vous pose une colle. Glenn Hoddle, non?
Peut-être. Aucune idée. Robert Pogzebut, non, je l'invente totalement. Je ne sais pas qui il est.
Ricardo Villa aussi, l'Argentin, peut-être.
Un petit mot sur City. Au moment du 11 type, hein, au moment du coup d'envoi. De Bruyne, Sané, Gabriel Jesus, Company. Pas titulaire, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, même pas sur la liste, c'est quand même énorme.
Alors Bernardo Silva, je pense qu'il est blessé, très sincèrement.
C'est pour ça que Mahrez a été titularisé au dernier moment.
Mendy, bah il est sûr, on connaît très bien, il est fantastique, mais il est pas au niveau physique adéquat pour pouvoir faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire apporter sa percussion, sa puissance, sa vélocité aussi, sa capacité de passe, parce qu'en début de saison, c'était un des meilleurs passeurs décisifs de Première Ligue. Ensuite, De Bruyne, il est cette saison handicapé par des blessures.
Ils sont rentrés tous les deux en fin de match, De Bruyne et le Roi Sané.
À répétition, moi, ceux que j'ai trouvé moyens, très sincèrement, sur ce match-là, je vais peut-être vous surprendre, vous parliez de la fébrilité de la défense, mais si elle prend des vagues...
Fernandinho, c'est pas bon, Olivier, et David Silva, encore pire.
Olivier, si elle prend des vagues comme ça, c'est qu'elle n'est pas aussi suffisamment protégée.
Absolument.
Je suis d'accord avec vous sur les réserves individuelles qu'on peut avoir sur Delph ou sur certains, mais je trouve que le milieu de terrain de Manchester City, il a perdu le match ce soir.
Mais tout à fait d'accord. J'ai trouvé Fernandinho souvent en retard et qui faisait beaucoup de fautes. Et David Silva, moi, je suis pas très convaincu par ce rôle de David Silva dans un trio au milieu. Je le préfère plus haut, plus offensif. Là, je trouve qu'il a plus le gaz et les jambes pour faire ça. Après, bon, Guardiola a sûrement ses raisons de le mettre là, mais je suis pas très convaincu.
Mais est-ce que c'était pas un peu étonnant au niveau du coaching, puisqu'il a fait des changements à la 89e minute, Sané et De Bruyne?
Étonnant.
On les a vus longtemps quand même patiner un petit peu, ronronner.
Je trouve que
les a remarqués avant, ces problèmes au milieu.
À mon avis, il a pas eu une grande confiance dans leurs moyens physiques du moment, tout simplement.
Martin Guez vient de parler. Martin Guez, ça rime avec?
Martin Guez,
avec Anglaise.
Ouais, ça rime avec
un joueur qui est proche de vous.
Mahrez.
Mahrez, voilà. Et Pierre-Olivier Guérin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a récupéré du Mahrez. On écoute du Mahrez.
Bravo.
C'est pas grave, il nous dit, c'est pas grave de perdre 1-0. Il y a le match retour.
Non, personne n'est abattu. On sait qu'un quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas facile. Même si c'est contre Tottenham, même si c'est une équipe qu'on connaît et qu'on a l'habitude de jouer, ça fait partie du foot, voilà. Je pense que c'était un match où on s'est les deux équipes se sont un peu gérées, on a attendu un peu, les deux équipes ont attendu un peu, ils ont quelques occasions en première, deuxième mi-temps je pense qu'on était mieux qu'eux. Après voilà, ils marquent ce but, mais ça change rien à notre approche du deuxième match.
Bien sûr qu'il y a la place pour passer l'international algérien Riyad Mahrez. Quand on l'écoute, on a l'impression que c'est copié-collé avec Nabil Djellit. Mais il nous écoute plus, Nabil Djellit.
Mais
il est
vous
sur
savez
les réseaux
quoi, avec cette émission, on fait un véritable Riyad Mahrez, mon cher Olivier.
Oh, il y avait longtemps. Bah, on préfère sur les réseaux
sociaux.
Qu'est-ce
que Nabil est facile.
Pour en terminer avec ce match-là, est-ce que ce City dont on a parlé en milieu d'après-midi dans la première version de Radio Foot, en disant Pep Guardiola veut tout prendre, faire un quadruplé historique, la Coupe de la Ligue elle est dans la poche, la Cup c'est
bien
plus
parti.
Qu'envisageable, le 18 mai finale contre Watford, il y a le duel avec Liverpool, mais il y a un petit avantage, s'ils gagnent leur match en retard ils auront un point d'avance, mais il y a un joli duel pour le titre en Première Ligue et donc la Ligue des Champions. Quand on voit ce match aujourd'hui, où là ça commence à être sérieux, quart de finale,
Il y a deux questions.
Ça semble loin,
y a
un quadruplé.
Il y a une grosse. Bon, pour moi, Guardiola, il joue plus sa saison et sa réputation, entre guillemets, sur la Ligue des Champions que sur la Première Ligue qu'il a déjà gagnée. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit ici. Il a gagné la Ligue des Champions avec un certain Lionel Messi du côté du FC Barcelone.
Qui vous dites?
Lionel Messi, un bon joueur, un gaucher assez rapide, fréquent.
Oui, il ira loin. Le référent m'en a parlé, m'a dit, il ira loin.
Imprévisible dans sa manière de jouer. Et il était du côté ensuite du Bayern de Munich. Il a échoué à chaque fois en demi-finale avec les Robben et les Ribéry. Là, il est du côté de Manchester City. C'est un club un peu à l'instar du Paris Saint-Germain qui rêve un jour de remporter cette Ligue des Champions. Pour moi, si il gagne la Ligue des Champions et il perd la Première Ligue, pour moi, sa saison est une réussite et est un succès également. Parce que pour la première fois de son histoire, Manchester City afficherait son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions. Et Guardiola, grâce à cette voilà cette animation offensive,
il montrerait qu'il peut exporter sa méthode.
Quoi. Et sans Messi surtout quelque part. Et c'est ça aussi l'enjeu.
Et, il ferait taire quelques rageux. Voilà. Si l'on passait à Liverpool-Porto, les amis, pendant quelques minutes, cinquième minute justement, ouverture du score du Guinéen Naby Keita. Bah oui, nous on est africains ici, je vous le rappelle. 25e minute, 2-0, c'est Firmino. Et puis parce qu'on est très africain, on a aussi noté la 73e, la sortie de Sadio Mané avec une standing ovation, comme on dit. Le stade était debout pour saluer la sortie de l'attaquant sénégalais. 2-0, on a l'impression que Liverpool peut avoir quelques regrets. Il y avait moyen de plier ce quart de finale dès ce match aller.
Alors oui et non, c'est-à-dire que effectivement Liverpool aurait pu, en poussant un peu plus son avantage, surtout en première période où ils étaient vraiment au-dessus, avoir peut-être 3 buts d'avance à la pause par exemple, mais d'un autre côté c'est pas mal qu'il n'ait pas encaissé de but, parce que Moussa Marega, qui a été très volontaire, qui a quand même fait un bon match, pas toujours aidé par ses deux
ailiers, le Malien dont on a parlé aussi,
mais pourquoi Brahimi joue pas tout de suite là,
mais il aurait pu lui réduire la marque par la suite. Donc finalement 2-0, c'est pas extraordinaire, mais ne pas encaisser, ça c'est très bien, et je pense que c'est quand même un bon socle pour aller se qualifier au stade du Dragon. Je vois pas Porto, en refaisant un match de cet acabit-là, remonter, mettre un 3-0 à Liverpool.
Il va falloir rappeler que l'année dernière, Porto, dès le match aller, avait pris 5-0 à domicile face au même Liverpool.
C'est vrai que moi, je suis un peu déçu de ne pas le voir, Sergio Conceição, de ne pas voir aligner quand même Yacine Brahimi, qui est capable de faire des différences et semer la
saison. Il est entré, je ne sais plus quelle minute,
mais vers l'heure de jeu.
Mais comme il n'a pas prolongé, puisqu'il arrive en fin de contrat, sa situation contractuelle ne l'aide pas vraiment à s'installer complètement dans le 11 type de Conceição. J'espère qu'il le mettra sur le match retour, parce que lui, il est capable, un peu comme un Sadio Mané dans un autre registre, de créer des différences et d'apporter du danger. Très sincèrement, il faudra un Porto à 120% et un Liverpool à 80% pour espérer voir les Portugais...
Ça fait beaucoup de conditions.
Pour espérer voir les Portugais renverser la tendance.
Martin ?
Non, je continue juste à égrener mes petites statistiques. Puisque
c'est bien.
Une victoire, ce serait un exploit, une victoire 3-0 encore plus, surtout si on sait que Liverpool reste sur 15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. On les voit quand même mal perdre 3-0 au match retour.
Ouais, c'est vrai qu'on en est à 15 matchs, ça veut dire 10 victoires et 5 nuls depuis le 7 janvier. Décidément, Manchester City et Liverpool, on comprend un peu mieux pourquoi ils se tirent à ce point la bourre en tête de la Première Ligue. Ce sont deux équipes qui sont phénoménales, tout simplement, en 2019. On a parlé de Moussa Marega cet après-midi, 27 ans, né aux Ulis, malien passé par la DH, le National, Amiens.
L'Espérance de Tunis.
L'Espérance de Tunis, incroyable. L'Espérance de Tunis. 20 buts en championnat la saison passée, 8 cette année seulement, mais 6 en Ligue des Champions. Bon voilà, on l'a vu en deuxième mi-temps, il aurait pu tirer son épingle du jeu, ça n'est pas passé sur cette affaire, c'est dommage parce que
il y a un peu moins de suspense. Il s'est bien démené, il a quand même réussi parfois à résister à la défense et à se mettre en position, mais il manquait parfois peut-être un peu de lucidité, de précision, et puis moi je trouve que les deux ailiers Corona Suarez n'ont pas été du tout à la hauteur, il n'a pas été bien soutenu quoi. Donc ils étaient occupés, c'est vrai, plus au milieu à fermer les côtés, mais ça manquait un peu quoi. Il était un peu seul, je trouve.
Que ce trio là est moins fantastique, même si la saison dernière ils ont pris une punition incroyable, ils sont devenus champions du Portugal. C'est quand même moins fantastique qu'avec Vincent Aboubakar, malheureusement.
Ah bah oui.
Mais qui
oui.
s'est fait les croisés, et Yacine Brahimi qui était franchement un triumvirat africain, 100% africain, qui était une véritable attraction et capable de mettre plus au supplice ses adversaires. Au retour, encore une fois, on va voir quelles vont être les solutions ou du moins les correctifs apportés par Sergio Conceição. Parce que quand on est à l'FC Porto et quand on a l'histoire du FC Porto, on ne baisse pas les bras.
Conceição, il avait l'air, cet après-midi, dans ce qu'on a entendu de lui, déjà assez content. Il semblait presque se satisfaire de ce top 8 européen. Et vu qu'il était à la lutte avec le Benfica pour un titre de champion, bon, voilà. Alors, on va pas dire qu'il va pas jouer le jeu à fond, mais on se sentait moins concerné.
Quand vous arrivez à ce niveau-là. Alors, d'un autre côté, moi, j'ai lu quand même des déclarations d'avant-match. Alors, j'en ai lu de Pepe Pepe, le défenseur qui était suspendu, qui a dit qu'il voulait absolument gagner et qu'il pouvait gagner sa 4e Ligue des Champions. Donc ça, c'était, bon, ça, c'est son rôle, mais ça paraît quand même un peu présomptueux. Et Danilo qui a dit personne ne passera, je suis là. Bon,
c'est... il a fait un bon match, Danilo.
Ouais, mais c'est pas des choses qu'on dit avant. Et bon, moi je veux souligner quand même les matchs fantastiques de deux joueurs à Liverpool. C'est Alexandre.
Alors on va parler de Liverpool. Ah, oui, bah... On va en parler parce que là on a beaucoup parlé de Porto, mais finalement c'est Liverpool qui a gagné 2-0. Je pense que quand on gagne 2-0 à domicile, on a quoi, 3 chances sur 4 au moins de
ouais,
se qualifier.
Attention, la remontada est un concept qui monte en puissance dans la Ligue des Champions.
Un concept d'abord parisien.
Mais non, on a eu des remontadas avec la Juve face à l'Atlético. L'Ajax face au Real, c'est peut-être la Ligue des Champions des remontadas.
Parlez-moi de Salah, Mané, Firmino. Salah,
c'est des bons joueurs.
On le rappelle, 18 buts cette saison. Il était muet depuis 8 matchs, mais il a marqué le week-end dernier face à Southampton. On rappelle qu'il y a 7 passes décisives aussi. C'est une moins bonne saison, mais finalement, à peine que l'an passé. Mané, 17 buts, Firmino 12 plus 1, hein, parce qu'il a marqué aujourd'hui. Ça fait 13. Elle a fait le poids, cette attaque, ce soir?
Moi, j'ai trouvé que c'était pas leur meilleur match, quand même. On a déjà vu le trio meilleur. Bon, Mané est évidemment primordial sur l'ouverture du score. Firmino marque le deuxième. Bon, formidable, mais c'était pas parfait, quoi. Dans la circulation, dans les appels.
Ouais, Salah a quand même une énorme occasion, là, quand il se retrouve tout seul et qui la tente, mais que Salah,
on a l'impression. J'ai l'impression à la fin qu'il voulait marquer son but à tout prix.
Oui, il est un peu dans cette logique-là, vous avez raison.
Il avait un côté, je veux rattraper mon retard statistique ce soir, et c'est pas ce que je préfère chez lui, qui est plutôt un joueur de collectif. Là, je l'ai trouvé, sur la fin, un petit peu tourné vers ses propres statistiques. Ça commence un peu à l'énerver.
Ça commence à se voir aussi.
D'être un peu en retard sur ses temps de passage de la saison dernière. Alors ça n'enlève rien à ce qui dégage de positif. Moi j'aime beaucoup quand même, mais là ça commence à gripper un peu son jeu.
Il a basculé dans la catégorie des joueurs je n'ai pas le droit de pas de marquer. C'est-à-dire qu'on l'attend tout le temps et c'est aussi le niveau d'exigence qu'il s'est donné à lui-même. Aujourd'hui s'il veut s'installer avec les meilleurs, non pas sur une saison ou deux saisons, c'est toutes les saisons, comme Messi ou Ronaldo, si je peux me permettre.
Ouais, parce qu'il est un peu chambré en Angleterre. Ouais, la presse anglaise commence à dire one man season, voilà. Quelque chose comme ça. J'ai plus le terme exact en anglais, après, mais l'homme d'une saison.
Tout à fait, mais enfin, il est quand même, c'est loin d'être catastrophique. Hein. Je vous rappelle qu'il a
18 buts, 7 passes décisives.
Voilà, et puis c'est le joueur qui a atteint la barre des 50 buts en première ligue, quasiment le plus rapidement de l'histoire. Donc c'est quand même, ça situe quand même le niveau de performance de ce garçon. Il y a toujours un effet nouveauté. Et donc lui, c'est un peu comme en musique. Olivier, vous savez très bien, vous avez le premier album qui a un succès et ensuite il faut la confirmation et lui
j'ai beaucoup de mal
c'est l'année de la confirmation, même si pour moi en grande partie il confirme, mais moi j'aimerais mettre le curseur sur Firmino, autant finisseur que créateur. Je trouvais qu'il avait navigué entre les lignes comme jamais et c'est un joueur absolument fantastique.
Et sur le but de Firmino, je suis sûr que Patrick Juillard va nous parler du passeur.
Absolument, mais pour moi, les deux joueurs à sortir un peu de l'équipe de Liverpool ce soir, c'est Naby Keita, parce que outre son but, je trouve qu'il a vraiment percuté, qu'il a beaucoup apporté d'énergie, de tonicité, qu'il a vraiment du jus, qu'il arrive en forme
sur
au bon
un duel
moment.
En fin de match.
Et puis Alexander Arnold, que je trouve phénoménal, quoi. Il est extraordinaire.
Mais c'est la réussite.
20 ans, c'est pour moi, dans les joueurs de 20 ans, à part en dessous de Mbappé qui est un peu un extraterrestre, c'est lui le meilleur.
Bah, c'est aussi la réussite de Klopp d'avoir su valoriser ces deux jeunes sur les côtés, Alexander Arnold et Robertson.
Qui n'étaient pas là ce soir.
Sans recruter, alors qu'on sait le prix des latéraux aujourd'hui qui flambe, et c'est une de ses réussites. Parce qu'on parle beaucoup du trio. Des trois, Salah, Mané, Firmino, mais même si Robertson n'était pas là, les deux jeunes latéraux, c'est fantastique.
C'est une très très belle équipe. C'est peut-être des quatre qu'on a vu ce soir la plus belle équipe Liverpool, non ?
Oui, parce que moi je trouve que c'est l'équipe qui est le plus sur une progression par rapport aux deux saisons. Guardiola, évidemment, c'est formidable ce qu'il fait, mais on sent que c'est un petit peu des retouches. Comme un laborantin qui essaierait de trouver la bonne formule, alors que Klopp, c'est vraiment un côté humain. Il y a un côté le leader du pack, the leader of the pack, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui semble plus collectif chez lui. Et ça dégage plus un côté irrésistible.
Bon, c'était une soirée pas mal quand même, non?
Bah, on s'est régalé, puis on attend la suite.
Un peu plus en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Ça ronronnait
du côté de Tottenham City, c'était mieux quand même en deuxième mi-temps, si je peux me permettre.
Oui, après, et puis le but de Son est pas mal aussi.
Ouais, voilà.
La balle n'était pas sortie. On a bien vérifié. Elle n'était pas entièrement sortie. Le but était donc valable.
Et très bon travail de ce garçon, Son également, qui a énormément progressé. Et qui a joué cette saison la Coupe d'Asie des Nations, rappelons-le.
Allez, pour les matchs de ce soir, c'est fini. On rappelle la suite. Ce mercredi, bien sûr, Manchester United, Barcelone et Ajax, Liverpool. Quel programme, les amis. Allez, on passe à la suite.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? C'est quoi cette blague?
C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne.
C'est toujours les plus forts qui écrasent les plus faibles.
Il est l'or des seniors.
Vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après.
Égalité pour tous, non.
Ce jingle imprévu concocté par Thibaut depuis ce matin avec ses petites mains, il est allé chercher dans les archives. Ça résume assez bien la suite de Radio Foot, donc avec Karine Galli, Salim Bongali, Gilles Vernez et Hugo Moissonnier. Ils sont encore là. On va parler toujours de la Ligue des Champions, mais donc de cette réforme voulue par certains, annoncée pour 2024. On l'a déjà évoqué dans l'émission, mais c'est vrai qu'il y a tout un dossier dans le journal L'Équipe ce mardi. Et puis la nouveauté, c'est qu'on a beaucoup de réactions et beaucoup de réactions négatives. Alors, il y a les riches et les autres. Résumé de cette révolution de la Ligue des Champions, voulue en gros par les gros, la Juve, le Bayern, le Barça, le Real, le PSG, et qui inquiète tous les autres, ou presque. Rappelez-nous les grandes lignes de cette réforme.
Oui, parce que l'esprit de la réforme, il a été parfaitement illustré par Thibaut et son petit montage. Les détails, ça fait un petit peu froid dans le dos. On rappelle, donc, projet de réforme à l'horizon 2024 porté par l'Association des clubs européens, l'ECA, qui défend l'intérêt des clubs et surtout des clubs les plus puissants. À l'heure actuelle, en Ligue des Champions, on a en phase de groupe 8 groupes de 4 équipes. Là, on passerait à 4 groupes de 8 équipes. Les 4 premiers de chaque groupe seraient qualifiés pour les 8e de finale de l'édition en cours. Il serait également directement qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions de la saison qui suit. Donc, et ça, c'est vraiment l'esprit de cette réforme, c'est que vous obtenez, vous achetez, utilisez le terme que vous voulez, votre ronde serviette pour la Ligue des Champions. Vous êtes à peu près assuré de revenir tous les ans, puisque les cinquièmes, ceux qui terminent cinquième de la phase de groupe, ils se qualifient également pour la phase de groupe de la Ligue des Champions de la saison qui suit. Les sixièmes et les septièmes, eux, ceux qui terminent 6e et 7e de leur poule, disputent un barrage. Et alors le vainqueur, donc le 6e, se qualifie également pour la phase de groupe de la Ligue des Champions de la saison.
Sur 32 qui sont assurés d'avoir leur ronde serviette pour la saison.
C'est le principe du ronde serviette. C'est ce qui fait dire à certains que cette Ligue des Champions 2024, c'est une ligue fermée, la fameuse ligue fermée, ce spectre qui revient comme une arlésienne, c'est une ligue fermée et qui ne dit pas son nom. Alors les autres, qu'advient-il des autres équipes? Alors les septièmes, eux, ils se qualifient pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Alors eux, ils vont aller squatter la Ligue Europa de la saison qui suit. Quant au huitième, ils se qualifient. Alors les bons derniers, ils ont quand même le droit de rester en Europe la saison d'après, puisqu'ils se qualifient pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. Et alors, on lit également dans le journal L'Équipe que les deux derniers de chaque groupe seraient remplacés sur la saison qui suit en Ligue des Champions par les quatre demi-finalistes de la Ligue Europa. Voilà. Donc, voyez, l'idée, c'est que si vous disputez une Coupe d'Europe à un moment donné, pour sortir de la sphère européenne, c'est très, très compliqué.
Faut vraiment être nul, quoi.
Donc, il y a l'idée d'une
une fois
fermeture.
Que vous êtes dedans.
Voilà. Il y a l'idée de comme ça, de mettre en place un club fermé. Et puis, il y a l'idée aussi de faire jouer plus de matchs, de rendre la Ligue des Champions plus importante dans le calendrier des clubs. À titre d'indication, les finalistes disputeraient 21 rencontres pour accéder à la finale. Disputeraient 21 rencontres en tout dans la compétition contre 13. Actuellement, la Ligue des Champions prendrait encore plus d'importance dans le calendrier et les objectifs des clubs.
Et c'est on passerait dramatique. De 96 matchs aujourd'hui, Ligue des Champions, c'est 96 matchs à 224. Et on sait bien que dans le football circus, plus de matchs, c'est plus de pognon, de gros oufles, de pépettes d'oseille, de blé, quoi. On s'en met plein les fouilles.
Non, mais c'est Pardon. Oui. Moi, je trouve que c'est réellement dramatique pour l'intérêt du foot. Il y a un moment, il faut arrêter. On se retrouve déjà avec des matchs qui n'ont aucun intérêt avec les équipes nationales. On le voit là en ce moment avec l'Euro, Moldavie-France, France-Islande, ça n'intéresse personne. On le voit pour la Coupe du Monde qui ne cesse d'accueillir de nouveaux pays. Et là, pour moi, c'est exactement la même chose pour la Ligue des Champions. Déjà qu'en Ligue des Champions, en phase de groupe, il y a des matchs où il y a des écarts énormes. Là, tu veux rajouter encore des matchs. Attention, parce que tu te rends compte quand même avec les audiences télé que ça baisse, clairement, ça baisse parce que les gens se retrouvent avec des matchs qui ne les intéressent pas.
Foot, tu le fous.
Mais bien sûr, mais France-Moldavie, par exemple, ça a intéressé 6 millions de personnes. C'est la plus faible audience pour l'équipe de France depuis 2016. Et on est champion du monde. Et ça va continuer parce que les gens France-Moldavie, ça les intéresse pas. Enfin, ça intéresse 6 millions, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a plus rien à voir avec les scores qu'on pouvait faire avant. Et la Ligue des Champions, c'est pareil. Moi, me farcir un... Alors, je vais pas me faire des amis, mais un Young Boys de Berne face à Porto lors de la phase de groupe, ça m'intéresse pas.
Sauf qu'il n'y aurait pas ça. Sauf qu'il n'y aura pas ça, parce qu'il n'y aura que des gros, au final.
Non, mais Berne pourra toujours y accéder.
Oh là, justement, tous les 10 ans.
C'est une équipe suisse. C'est... Moi, ce qui me gêne plus, c'est que... Donc, on va tomber dans cette ligue fermée. Mais au final, en mode NBA, où tous les gros noms vont être ensemble. Par moment, on est agacé.
Mais il y a quand même énormément de clubs, au final, qui sont pris.
Surtout les gros, parce que justement, on va prendre les 4, voire 5 anglais, on va prendre les 2 meilleurs français, les 3 ou 4 meilleurs italiens, les 3 ou 4 meilleurs espagnols, les 3 ou 4 meilleurs allemands, ça vous donne déjà un nombre, et puis on rajoutera toujours un autre espagnol, un autre allemand, un autre italien, ce qui fait qu'il y aura quasiment plus d'autres nations.
Les français ne sont même pas sûrs d'être deux. Il y a la chance pour l'instant d'en qualifier un. Mais
les
plus
quatre
forcément
anglais
deuxième.
Espagnols,
ça fait 16.
Non, mais les quatre grands en championnat, ouais. On en a déjà 4.
Oui, mais on va en rajouter encore pour le coup, justement pour retirer ça aux petits entre guillemets.
Un mot Gilles.
Pour,
et après.
Pour moi, il y a plusieurs problèmes. C'est la fin des championnats nationaux, très clairement.
Oui, parce que les grosses équipes. Il y a des matchs prévus le week-end.
Oui, absolument. Oui. Les grosses équipes, elles vont jouer davantage cette Ligue des Champions.
Elles vont vouloir être dans les 5 ou 6 premiers.
Absolument.
C'est-à-dire qu'elles mettront en championnat, comme l'équipe le dit Javier Tebas, le patron de la Liga, l'équipe B ou C.
Absolument. Mais, les avantages pour les gros clubs, c'est que c'est une usine à gaz, mais une usine à gaz lucrative, que vous évitez l'accident industriel qui est terrible
c'est
pour
ça.
Eux, vous êtes toujours en Ligue des Champions, et que vous allez avoir de très grosses affluences, parce que vous aurez en poule des gros contre des gros. Donc moi, je suis contre cette ligue fermée, mais à partir du moment où on avait déjà accepté la Ligue des Champions et non plus la Coupe des Champions, on était dans ce système. Et ce système, il ne fait qu'évoluer vers quelque chose qui est le football des riches.
Hugo,
oui, une petite lueur d'espoir pour les petits championnats entre guillemets, puisqu'on aurait aussi quatre champions de pays qui ne sont pas déjà qualifiés en C1 qui intégreraient cette Ligue des Champions. Donc on aurait quand même la possibilité pour les pays d'avoir un représentant, un champion pour les petits pays qui n'ont pas déjà d'autres.
C'est pour acheter leur voix, ça.
Juste pour rappel, par exemple, en Ligue 1, avec le fameux barrage du 18e qui affronte le 3e, on a aussi au final évolué dans ce sens pour éviter le potentiel accident industriel. Quand vous êtes un investisseur, que vous voulez investir en Ligue 1 dans le championnat de France, vous voulez éviter, en tout cas réduire les risques de descente. Donc on fait ce genre de choses. Là, pour cette Ligue des Champions, ce serait grosso modo la même chose. On évite le potentiel accident, vous facilite au final une qualification pour que vous puissiez avoir plus de matchs, plus d'audience en stade, donc plus de billetterie et autres et autres.
Mais on se dirige, si cette réforme passe, vers une Ligue 1 à 18 équipes, 18 clubs au lieu de 20, parce que là encore...
Ligue 1 à 18 clubs, peut-être la Coupe de la Ligue qui à ce moment-là disparaîtrait aussi.
C'est ce qui explique très bien, encore une fois, dans l'équipe, chercher à lire cette interview d'Étienne Moati, c'est Javier Tebas, le patron de la Liga.
Il est décrié, mais lui, au moins, il dit les choses
exactement,
clairement.
Exactement.
Il sait qu'il défendre.
Il est vraiment, si besoin, on utilisera tous les moyens légaux et politiques pour empêcher que ce projet se réalise. C'est vrai que l'interview est très intéressante. On sait que la Première Ligue, le patron de la Première Ligue est totalement contre. On rappelle juste que la Première Ligue a vendu ses droits à l'international cette saison. Plus de 4 milliards de livres sterling. Donc, si vous rendez ce championnat moins attractif, c'est beaucoup moins d'argent et aussi pour les autres clubs.
Pour le coup, la Première Ligue, entre guillemets, aujourd'hui n'a pas de concurrence internationale mis à part un Real Barça qui est un match concurrent dans la Première Ligue. Mais si demain vous mettez la Ligue des Champions face à la Première Ligue, là tout d'un coup ça rend effectivement l'attrait moindre de la PL et ça devient très inquiétant pour ces équipes anglaises.
Vous avez une sorte de gouvernement supranational du football qui va maintenant régner sur la planète football. Alors je suis pas d'accord avec Karine sur la paupérisation des équipes nationales. Moi France-Moldavie ça me passionne, mais vous aurez des super matchs.
Et le contenu t'as passionné ?
Moi ça m'intéresse. Mais là vous aurez une vision totalement différente monde du football sera plus du tout romantique, uniquement financière. Mais... Et pour acheter définitivement, vous soulignez, les voix des petits pays, on leur met une Ligue Europa, une deuxième Ligue Europa.
Oui, également, c'est la création d'une troisième Coupe d'Europe.
Absolument, comme ça, tout le monde sera, entre guillemets, content.
Après, le seul truc, et là, en revanche, je rejoins Karine, c'est par rapport aux audiences télé. On le remarque, dans tous les pays, il y a effectivement une baisse des audiences télé, parce que notamment...
Il y a trop de matchs, en plus.
D'une part, il y a trop de matchs. D'autre part, ce sont des groupes privés, pour la plupart, à péage, qui achètent. Effectivement, il n'y a quasiment plus de matchs en clair aujourd'hui. Et ce, dans tous les pays européens, voire mondiaux. Et à un moment donné, quand les gros affrontent les gros, on aime bien ça, en quart, en demi, en finale. Mais dès le premier tour, s'il n'y a que des gros qui affrontent que des gros, ben à un moment donné, on perd ce sel du prestige, de l'émotion.
Sauf comme que le Barça-Real, à un moment où constamment on avait des Barça-Real, que ce soit évidemment en championnat, mais en Ligue des Champions, t'avais un enchaînement championnat, Ligue des Champions, Coupe du Roi, etc. Il y a un moment, t'en avais limité overdose. Il faut le faire pour avoir une overdose de Messi et Ronaldo.
Sauf que la phase suivante de ce 2024, ce sera 2028, où là, vous aurez un championnat fermé. Et là, le championnat fermé, je peux vous dire que quand vous aurez un championnat, par exemple, à 20 équipes ou 24 équipes, avec toutes les meilleures de la planète Europe, du continent européen, là, vous regarderez. C'est ça leur idée à terme.
Je prends juste un exemple, celui du basket, l'Euroleague de basket. Comment ça se passe? Il faut rappeler, donc, en basket, vous avez dans les championnats nationaux de France, d'Espagne, de ce que vous voulez, et vous avez l'Euroleague. L'Euroleague, c'est 16 équipes qui s'affrontent dans une seule poule. 16 équipes, donc ça fait 30 journées où ils s'affrontent, et ensuite les 8 meilleurs se qualifient pour les quarts de finale, demi-finale, et ensuite la finale. Mais vous avez un championnat et un autre championnat, en fait. 30 journées de championnat, plus les championnats nationaux. Au final, les championnats nationaux, déjà, qui ne sont pas forcément appréciés, peut-être, mis à part l'Espagne et l'Italie, sinon les autres ne sont pas appréciés, ben là, on les perd totalement.
Et puis, les dégâts, si vous faites jouer cette Ligue des Champions le week-end, ça veut dire que vous faites jouer les championnats nationaux le mardi, le mercredi.
Déjà, qui va au stade le mardi et le
mercredi? Qui va pouvoir aller au stade? C'est la mort, c'est ce que disent. D'ailleurs, c'est le titre, hein, Javier Tebas, ils vont tuer les championnats nationaux. Quelle est leur marge de manœuvre maintenant à tous ces patrons de ligue, parce que c'est vrai, on se dit comme ça, tiens, le patron de la première ligue, il est contre, le patron de la Ligue 1, bon, on est content de savoir qu'il est contre, mais on se dit qu'il a moins de points.
Mais comme on ne sait pas qui c'est, voilà, il est contre, mais personne ne sait.
L'italien ne s'est pas exprimé, l'allemand non plus, on ne sait pas trop ce qu'ils en pensent, mais enfin, voilà, le patron de la Ligue 1, c'est quand même un championnat puissant, ont-ils du poids? On a vu que Seferin, le patron de l'UEFA, a priori était contre, puis finalement, il a l'air de faire ami-ami avec ces gens-là.
Il est cul et chemise avec Agnelli. Voilà,
de la Juve,
quel président
de l'ECA, le groupe de grands clubs qui met au point cette funeste réforme. Oui, Hugo.
Oui, mais la question que je me pose, c'est n'y a-t-il pas tout de même un public pour ce type de compétition, cette logique de football, ce football-là, puisque bon, alors nous on est révoltés entre guillemets, nous sommes, on va dire, des observateurs éclairés. Il y a des gens qui sont attachés aux championnats nationaux, mais quid des jeunes générations,
quid des
marchés émergents entre guillemets, quelle expression horrible, mais en Asie, aux États-Unis, on est habitué d'ailleurs au système de ligue fermée. Est-ce que on s'intéresse vraiment aux championnats nationaux dans leurs détails, dans leur lutte pour le maintien, dans leur lutte pour le ventre mou? Je constate, je me fais des pensions de rien.
De l'autre côté, vous allez proposer à ces publics-là potentiellement, dès le premier tour, Barça-Manchester City, Barça-Juventus, Barça-Borussia Dortmund.
Dès le premier tour, je suis assez d'accord avec Karine Galli qui le disait tout à l'heure.
Moi, c'était Karine, Olivier.
Oui, oui. Non, mais j'ai bien, de temps en temps, c'est
je vais vous appeler Arnaud, on va s'arranger.
Oui, Jean-Paul, appelez-moi Jean-Paul. Non, mais je sais plus, c'était Gilles, mais, voilà, on le disait tout à l'heure sur ce désintérêt et je ne sais plus où je veux
en venir, Olivier.
Avec cette histoire de Catherine et de Karine, elle m'a perturbé.
Désintérêt, les gens regardent moins le foot à la télé.
Oui, mais exactement. Vous venez d'utiliser le mot, c'est l'histoire, avez-vous dit. Vous venez de dire ça, c'est l'histoire.
C'est l'histoire.
Mais vous êtes comme moi, vous faites partie des anciens, et ce sont les modernes qui sont au pouvoir.
Je suis pas une ancienne.
Non, Olivier, je ne me serais pas permis. Non, Olivier.
Moi, je suis pas une ancienne. Je veux que les championnats perdurent, parce que les championnats, c'est des histoires, c'est des derbies, c'est des duels. Je suis désolé. Moi, quand je vais en première ligue et je vois que des Asiatiques, par exemple, dans des stades, j'ai rien contre les Asiatiques, mais ça manque du public local, de celui qui habite à deux ou trois rues du stade. On n'a pas envie que ça devienne.
Mais bien
ça
sûr, Janine.
Merci.
Évidemment, tiens, puisqu'on se moque et qu'on parle de prénoms féminins, si on passait un peu au football féminin,
on va pas se moquer.
Ah bon, non, on va pas se moquer, manquerait plus que ça. Dites donc, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ah bah oui. Allez, les femmes.
Avec Delphine Cascarino, le crochet, la frappe au filet. Et le but. La deuxième tentative était la bonne. Mbok a trouvé Delphine Cascarino qui ouvre le score pour les Bleus 1-0. C'est pas fini avec encore une fois. Oh là là, qui le bouge celui-là, de loin, de très loin, Delphine Cascarino. Avant tout, j'avais le poteau. Et ça rentre. Et ça rentre pour le troisième. Et cette fois, c'est bien elle. Un bon qui fait chavirer le stade de la Méno 3-0. Ouais, qui est là, qui est bon. Valérie Gondin récompensé par son travail. Le filet a tremblé. L'équipe de France mène 4-0. Et écrase le Danemark.
4-0, ça fait du bien un peu de légèreté, ce qui ne veut pas dire moins de spectacle, car il y en a eu hier du spectacle. Bonjour Eric Chorin.
Bonjour Olivier, bonjour
vous,
à tous.
Je vous présente Karine Galli.
Oui.
Vous étiez ensemble à Strasbourg hier.
Nous sommes croisés
devant la Méno.
Ouais. Devant la Méno.
Ouais.
Bon, on note cette information. Hein.
Je peux vous dire qu'il arrive très tôt au stade, il est consciencieux.
Mais ben, il a bien raison. C'est le meilleur moyen d'être à l'aise, de déstresser, de pas avoir d'angoisse. On teste la ligne, on sait que tout va bien.
Ah, vous connaissez le terrain, Olivier.
Mais bien sûr.
Ouais.
Et après, on peut aller se restaurer.
Oui, c'est vrai.
Quand tout va bien.
Tardivement. Une petite flamme de cuche.
Une petite flamme de cuche. On va tout savoir. Succès 4-0 de l'équipe de France face au Danemark. Quelques jours après un 3-1 face au Japon. C'était une bonne séquence, Eric.
Une bonne séquence. La dernière avant la liste. La dernière vraiment pour se préparer. Un peu plus d'un an et demi de travail de Corinne Diacre qui se terminait sur ce match face au Danemark avec le Japon précédemment. Finaliste du dernier mondial. Les Danoises finalistes du dernier Euro. Alors on se disait que deux victoires, 3-1. 4-1, 4-0, c'est censé être du solide. C'est peut-être un petit peu en trompe-l'œil, quand même. Mais ça n'empêche pas que les Françaises ont été au rendez-vous de ces deux matchs, qu'elles ont terminé cette séquence avec beaucoup de confiance, beaucoup d'enthousiasme, avec des retours de joueuses qui étaient absentes, comme Eugénie Le Sommer ou Gretchen Bock-Batty, qui étaient blessées aussi pendant quelques matchs, que Corinne Diacre a pu essayer tester, elle a fait tourner, hein. Alors, entre les deux matchs, il y a eu quand même quatre changements, si je ne m'abuse, entre la gardienne Sarah Bouadi, mais là c'était normal, puisque Pauline Ferrand-Mignon s'était blessée.
Décidément, on a du mal face à Karine aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, on a du mal. Mais elle est affûtée. Et puis trois autres changements dans chaque ligne, en fait, elle a pu faire tourner et puis voir aussi un petit peu si elle avait de bonnes doublures avec l'ambition d'avoir un 11 plus élargi qu'un 11 pour démarrer cette Coupe du Monde, à défaut d'avoir 23 encore tout à fait sûr, même si elle nous dit le contraire. Et puis on a vu des Lyonnaises vraiment très très en vue sur ce match. Pas forcément Eugénie Le Sommer cette fois-ci, même si elle l'était lors du précédent match. Là, cette fois-ci, il y a eu Delphine Cascarino et son très très joli doublé à 22 ans. C'est tout simple. Hein. Elle avait un but à son compteur. Elle en a désormais trois. Le premier, c'était face aux États-Unis et c'est une belle opportunité côté droit à la place de Kadi Diatoudiani si celle-ci éventuellement passe au centre. Donc voilà, c'était intéressant pour elle. Il y a eu ce beau but aussi de Gretchen Bock-Batty qui n'est pas forcément habituée à marquer, mais cette fois-ci, elle a signé la passe décisive pour Delphine Cascarino. C'est elle qui a un peu débloqué les choses face à un verrou danois assez solide au début de la rencontre, mais qui s'est très vite effrité en deuxième période quand les Françaises ont continué à pousser, ont fait quelques réglages. Gretchen Bock-Batty, justement, c'est le petit gros plan que je vous proposais aujourd'hui, Olivier. On l'a pas vu en bleu pendant trois matchs. Elle a fait une passe décisive, elle a marqué en frappant, en reprenant le ballon qui lui revenait sur un corner, tout en faisant un gros boulot en défense associé à Aissatou Tounkara, parce qu'elle avait choisi Corinne Diacre de laisser aussi Wendy Renard sur le banc. Un gros match quoi de la joueuse Gretchen Bock-Batty, n'est-ce pas Corinne? Corinne Diacre bien sûr.
Ouais, puis elle a eu des crampes à la fin du match, ça faut le faire. Non, c'est bien, elle retrouve son niveau, c'est vrai qu'elle avait raté les deux derniers rassemblements. Elle revient bien, c'est une joueuse précieuse. Ce que j'ai aimé aussi, c'est son association avec Tounkara ce soir. Voilà, Wendy, en plus, Wendy Renard a une très bonne attitude. Quand je lui ai dit que je voulais revoir cette paire de défenseurs centrales qu'on n'avait pas revue depuis, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et elle a une très bonne attitude, tout comme Busaglia, à qui j'ai dit que je la sortais, tout comme Diani. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on puisse avoir 14-15 joueuses capables de démarrer. Donc le casse-tête, il est plutôt positif. C'est un problème de riche que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi, c'est super.
Bah tant mieux, un problème de riche. 11 victoires sur les 12 derniers matchs. On rappelle la défaite juste face à l'Allemagne. Est-ce que... donc voilà, stade carré, on va se tourner vers Karine un petit peu. Est-ce que ça en fait des favorites de cette Coupe du Monde pour autant? Cette Coupe du Monde, on le rappelle, 7 juin, c'est en France.
Oui, ben justement, et je trouve que c'est important ce qui a été dit, c'est que il y a des victoires, évidemment, face à des équipes qui ont des statuts, sauf qu'elles ont beaucoup évolué. Déjà, le Danemark était vraiment l'invité surprise du dernier Euro et ça fait pas du tout partie des équipes favorites. Le Japon est en reconstruction. Quand on a battu le Brésil et les États-Unis, bravo, parce que c'était des victoires, mais il manquait à chaque fois les meilleures joueuses. Et lorsqu'on a affronté l'Allemagne, qui est également en train de se reconstruire, là, on est tombé réellement sur un os. Donc, effectivement, il y a de belles choses qui ont été faites. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que Corinne Diacre a essayé beaucoup de systèmes pendant ses matchs de préparation. Il y a eu des systèmes en 3-5-2. Il y a son système préférentiel en 4-2-3-1. Mmh. C'est celui-là qu'elle utilisera pendant la Coupe du Monde. Mais il y a d'autres options. Voilà. Si elle a des joueuses majeures qui sont blessées, elle pourra s'en sortir après. Et toutes les filles le disent qui ont joué des grandes compétitions avec l'équipe de France, c'est que jusqu'à présent, on est les championnes des matchs amicaux, voilà. Et lorsque la compétition arrive, évidemment, c'est plus dur et ça se tend. Donc, la préparation est très bonne, les voyants sont au vert, mais attention.
Gilles Verdez.
C'est bon signe parce que avant 1998, on était aussi les champions du monde des matchs amicaux. Et moi, je retrouve dans l'élaboration de la liste ce que faisait Aimé Jacquet, ce que fait Didier Deschamps, une sorte de méthode. J'ai l'impression vraiment que tout est planifié. Les systèmes, les remplaçants. Là, on en est à peaufiner la 22 ou la 23e. Je trouve que ça est fait avec une rigueur, une précision qui, moi, m'enchante. Si on ajoute à ça nos résultats, l'engouement populaire. Pour avoir des billets, il fallait les acheter par pack, puis par, on en parlait tout à l'heure, puis par billets individuels. Ça s'arrache. C'est un vrai succès déjà. Plus l'état d'esprit. Franchement, on a toutes les raisons d'être optimistes.
C'est très méthodique, en effet, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même peut-être pas le réservoir à disposition de Corinne Diacre qu'il faudrait. Si elle est obligée de faire jouer et de ménager du coup Élise Busaglia ou Gaëtan Tinet dans cette équipe des joueuses plus que trentenaires qui sont là, elle a presque joué, elle a même joué avec elle, Corinne Diacre, quand elle était encore joueuse, c'est parce que le réservoir n'est pas si profond que ça. Si Amel Majri n'est pas là côté gauche, on sait très bien que sa remplaçante aura bien du mal à jouer au même niveau qu'elle. Les six Lyonnaises qui sont présentes sur la pelouse hier soir, c'est parfois difficile de les remplacer. En revanche, elles sont sur une très belle dynamique. Alors, il y a le championnat avec ce choc face au Paris Saint-Germain qui va peut-être... le titre va se jouer peut-être samedi, hein, ce week-end en championnat. Il y a aussi la Ligue des Champions, encore pour les Lyonnaises. On a vu le retour de Jenny Le Sommer. Là, on a vu une joueuse qui a de la langue, qu'elle a dit incontournable, Corinne Diacre, avant même le match face au Japon, parce qu'elles ont ce supplément d'expérience et de match de haut niveau que n'ont pas toutes les joueuses.
Avant de revenir vers vous, Karine, un petit mot de Salim sur ce football féminin.
Je continue de rester malheureusement dubitatif. Moi, je suis depuis très longtemps et quand je vois cette équipe de France, Gilles et Karine ont parfaitement résumé les choses. Il y a l'état d'esprit, il y a les joueuses, semble-t-il. Après, il y a 2 ans, il y a 4 ans, on a continuellement vu ces résultats en amicaux qui étaient impressionnants.
Ça s'est arrêté en quart ou en demi.
Face à des gros noms, des grosses équipes, des grosses formations, des joueuses, tout ce que vous voulez, pour au final avoir la déception. Alors vous allez me dire, là, ce qui change, c'est que ça se déroule en France et que on a l'impression que Corinne Diacre, depuis un an, effectivement, ça monte. Mais je veux pas encore m'emballer. Je préfère attendre le premier match face à la Corée du Sud pour lancer vraiment la compétition, mais pas encore maintenant.
Avant de voir le programme, Karine.
Et puis, c'est vrai, il y a quand même des questionnements. On a des joueuses dans les couloirs, les deux latérales qui montent énormément, mais qui, par exemple, ont un déficit de qualité de centre. Ça, c'est un vrai problème, parce que Torrent monte beaucoup et Majri aussi, sauf que c'est bien de monter, mais il faut que les centres trouvent preneur. Après, t'as un choix qui a été fait par Corinne Diacre, c'est Valérie Gauvin, qui a un point d'appui. Mais, selon les adversaires, est-ce que c'est le meilleur choix en attaque? Et comme tu disais aussi, Gaëtan Tinet, c'est la numéro 10, on n'a pas d'autre de vrai numéro 10. Donc, il y a des questions et malheureusement, jusqu'à présent, lorsqu'il y a eu une adversité extrêmement relevée, on a eu des difficultés. Et il faut se souvenir que potentiellement, en quart de finale, on prend les États-Unis. Donc, ça peut être compliqué. Après, je trouve que Corinne Diacre, ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle ne les lâche jamais. Parce que les filles ont trop l'habitude de gagner, que ça soit en club avec Lyon ou aussi en match amico. Elle ne laisse rien au hasard. Hier, à la 94e, elle était encore en train de les replacer alors qu'il y avait une victoire 4-0.
Oui, oui.
Un mot d'Hugo?
Oui, simplement, je voulais demander aux spécialistes. Moi, ce qui m'interroge, c'est le mental, la capacité à répondre présent, sachant que l'enjeu à domicile, il est évidemment sportif, remporter la Coupe du Monde, mais il dépasse même un peu le cadre sportif. C'est pas l'avenir du foot féminin en France qui se joue à travers cette Coupe du Monde,
ça,
mais pas loin. En tout cas, l'engouement autour du foot féminin en sera transfiguré en cas de victoire.
Il faut l'organiser et la réussir.
C'est que les dernières saisons, en tout cas les dernières compétitions, quand il y a eu échec, on a vu qu'au final, il n'y a pas eu emballement et donc au final, pas d'inscription, puisque c'est ça au final qu'on cherche de joueuses féminines. Là, on a cette obligation-là et la Fédé le veut absolument. Et
oui, l'objectif, c'est le dernier carré, hein, clairement, hein, pour la Fédération.
Et le rendez-vous minimum important, le prochain, c'est mi-mai pour la liste. Et après, on rappelle
début mai. On va savoir cette semaine. Ils vont annoncer cette semaine quel sera le jour.
Ensuite, il y aura La préparation, on va le savoir cette semaine. Donc la liste début mai, préparation. On rappelle les trois matchs au premier tour.
Alors il y a deux petits matchs. Hein. D'abord avant Thaïlande, le match d'ouverture, la Thaïlande et la Chine à Créteil-Orléans, ça fait rêver. Puis ensuite on a l'ouverture face à la Corée du Sud au Parc des Princes. Cinq jours plus tard à Nice, c'est la Norvège. Et puis le troisième match, ça sera à Rennes et là ce sera face au Nigeria.
Allez pour finir sur une suggestion toujours du même, Jousset Christophe qui nous écrit beaucoup. Il a écouté la radio de chez lui.
Le petit
bienfaiteur de l'émission, un carton rouge. On sait, on est mardi. Un joueur de Chelsea nommé Drinkwater et qui a été pris pour alcoolémie au volant. C'est pas banal comme affaire quand on s'appelle Drinkwater.